C'est vendredi. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Le Matin. Bonjour Taliane.
Bon matin.
Anne. Est-ce que tu es dans la vibe du vendredi?
Oh que oui. Même s'il fait pas beau, moi c'est le soleil dans ma tête.
Ben moi aussi, regarde, une gouttelette ici et là, ça pourrait être pire que ça.
Ben oui, on n'est pas fait en chocolat non plus. Hein.
Non plus. Taliane, le procès de la cause Royal Séguin Louis Généreux s'est amorcé là, la semaine dernière.
Depuis le 16 mai dernier, la cause Royal Séguin Louis Généreux est entendue devant la Cour. Cette cause a pour but de faire reconnaître les droits des Métis dans la région de l'Est du Canada. Le chef de la communauté Métis autochtone de Maniwaki, Serge Paul, souligne qu'il ne s'agit pas du seul procès de ce genre qui a eu lieu en ce moment au pays. Des procédures judiciaires semblables ont été entamées dans certaines autres provinces de l'Est du pays. Serge Paul explique l'importance de cette cause.
C'est un jugement historique, c'est certain. Regardez juste seulement l'Ontario. L'Ontario est divisé en deux. Ce qui est l'ouest de l'Ontario, il y a beaucoup de métis qui sont reconnus. Puis l'autre bord, ils ne sont pas reconnus. Si on peut venir à bout de reconnaître, oui, les métis qui sont dans l'ouest, c'est les mêmes familles qu'on a ici.
Au cours des premières journées du procès, des membres de la communauté métisse sont venus raconter leur vécu ainsi que les raisons pourquoi ils se considèrent comme étant métisses. Au cours des prochaines semaines, ce sera au tour des experts de témoigner. Le chef de la communauté métisse autochtone de Maniwaki précise le rôle de ces experts concernant cette affaire.
On a un autre expert, Yuri Morin, pour tout expliquer, toutes les baptêmes, toutes les descendances, puis tout ce qu'il y a à faire là-dessus. Bernard Allaire, puis Linda Galipo, qui travaille à notre communauté, que c'est elle qui monte les dossiers en généalogie, qui travaille pour nous.
La semaine prochaine, la Cour recevra également l'une des trois personnes ayant travaillé sur une étude concernant la présence métisse dans la vallée de Gatineau et l'Outaouais. Le procès de la cause Royal Séguin Louis Généreux se poursuivra jusqu'au 17 juin. Les avocats de la Couronne et de la Défense prononceront leur plaidoirie du 25 au 27 octobre. Le chef de la communauté métisse autochtone de Maniwaki ne s'attend pas à recevoir une réponse avant le printemps prochain.
Maintenant, Taliane, concernant l'accident de travail survenu à Gracefield, la CNESST rend public ses conclusions de l'enquête.
La Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail a dévoilé hier matin, lors d'une conférence de presse, les conclusions de l'enquête réalisée à la suite de l'accident de travail qui a coûté la vie à M. Josh Lacroix, copropriétaire des entreprises AG Dupuis. Cet incident est survenu à Gracefield en juillet 2021. Le jour de l'accident, les travailleurs souhaitaient descendre un bâtiment sur des puits en guise de fondation. Pour ce faire, le bâtiment était temporairement soutenu par 4 caissons en bois. Chaque caisson contenait un vérin hydraulique soutenu par 2 morceaux de bois afin de soulever le bâtiment. Lorsqu'est venu le temps de retirer les pièces de bois et soulever le bâtiment, les appuis d'un des vérins ont cédé. Une pièce a heurté la tête de M. Lacroix. Le décès de l'homme a été constaté au centre hospitalier. À la suite de l'enquête de la CNESST, a souligné que la méthode de travail afin de soulever et redescendre le bâtiment était improvisée. L'inspecteur responsable de l'enquête, Martin Bergeron, donne plus de précisions.
Pour les travaux de soulèvement, il n'y avait rien qui avait été planifié. Ça n'avait pas été signé non plus par un ingénieur qui aurait dû faire le travail pour s'assurer que les travaux soient sécuritaires. Donc, ils sont allés avec des gens qui ont mentionné que c'est comme ça que ça se faisait et avec l'expérience de 1 ou 2 montées ou descentes et ils ont mentionné que 4 tours, c'était suffisant.
La CNESST n'a pas l'intention de donner un constat d'infraction aux entreprises AG Dupuis. Cependant, il n'est pas impossible que des constats d'infraction soient remis aux autres entreprises présentes. Le directeur du service de la prévention inspection de l'Outaouais, Steve McKinnon, explique.
La possibilité d'émettre un constat d'infraction à l'entreprise AG Dupuis n'est pas à l'étude. Par contre, la possibilité d'émettre un constat d'infraction aux autres entreprises qui ont participé aux travaux le jour de l'accident est présentement à l'étude par les services juridiques de la CNESST. Donc, il est trop tôt présentement pour vous le mentionner puisque c'est toujours à l'étude. Ce qu'il faut savoir, c'est que la CNESST a 1 an après la survenance de l'accident pour émettre un constat d'infraction.
Au cours des 4 dernières années, près de 9 900 travailleurs québécois ont subi des blessures après avoir été frappés à la tête par un objet, dont 19 en Outaouais. Du côté des décès, ce genre d'incident a coûté la vie à 19 Québécois, dont un travailleur de l'Outaouais.
Il y a eu une rencontre informative sur le golfe des Trois-Clochers cette semaine, des citoyens impliqués.
La ville de Maniwaki s'est expliquée à ses citoyens mercredi soir concernant sa décision d'actuellement fermer le golfe des Trois Clochers. Malgré un projet pilote, les revenus qu'engendrait le golfe n'étaient pas assez suffisants et causaient plutôt un déficit monétaire, la raison qui explique la décision finale. Pour la saison 2021, les dépenses se chiffraient à près de 201 000 $. Les revenus, quant à eux, s'élevaient à seulement 36 600, ce qui a résulté à un déficit d'exactement 164 600 $. D'ailleurs, plus d'une quarantaine de résidents étaient présents afin d'y poser questions et partager leurs inquiétudes. Une dame a notamment souligné que le projet pilote avait été effectué en temps de pandémie et qu'il n'aurait alors pas été aussi concluant qu'en temps normal. En réponse, la directrice générale à la ville, Karine Ali-Gagnon, a précisé qu'il s'agissait de la période où les relâchements des restrictions sanitaires avaient lieu. Elle a également souligné que le golfe algonquin aurait connu l'une de ses meilleures années durant cette même période. Rappelons qu'une offre d'investisseurs n'a pas été retenue par la ville. Le conseil estimait qu'une location d'un dollar pour le terrain ne serait pas équitable aux revenus que cet investisseur aurait touchés. Une résidente a également fait parvenir une pétition pour la sauvegarde du golfe, ayant récolté près de 500 signatures. La ville a terminé en mentionnant qu'elle restait ouverte à d'autres propositions d'investisseurs répondant à ces critères.
Eh bien voilà, il y en a un complété. Taliane, bon vendredi à toi.
Pareillement.
De retour pour nous parler du bulletin 10 heures. Puis ça, c'est à 9h30.
Dans quelques minutes.
Ben oui.